Mes chers amis, aujourd'hui, 21 janvier, nous fêtons Saint Menra de Sulchène. Menra de Sulchène naquit en Souabe, région d'Allemagne, aux alentours de 810. Quelques années plus tôt, un prince allemand, Berthold de la famille des Hohenzollern, avait épousé la fille du comte de Sulchène. Quand le fils que ce couple attendait arriva, ses parents l'appelèrent Meginrad, ce qui signifie « excellent conseil ». Plus tard, le nom Meginrad devint Menrad. Lorsque Menrad fut en âge d'apprendre, ses parents l'envoyèrent à l'abbaye de Reichenau, sur le lac de Constance, pour y faire ses études, sous la direction de son oncle, qui en était alors l'abbé. Menrad fit de remarquables études dans la littérature et l'écriture sainte et résolut de se consacrer à Dieu. Il devint diacre puis prêtre en 821. En 821, Menrad entra comme moine à l'abbaye de Reichenau, placée sous la règle de saint Benoît. Toujours prompt à obéir, strict dans le jeûne, zélé dans la prière, généreux dans les œuvres de miséricorde et surtout dans l'humilité, sa science et ses vertus le firent bientôt choisir pour enseigner. La réputation de sa science s'étendit au loin et le monastère de Bollingen sur le lac de Zurich, ayant demandé un maître érudit, ce fut notre saint moine qui fut choisi. Menrad avait alors 31 ans. Mais peu à peu, comme la sainteté attire toujours les gens, nombreux furent ceux qui voulurent vénérer la Sainte Mère de Dieu avec Menrad. Cependant, Menrad cherchait à retrouver un peu de solitude. Un jour, Menrad emmena avec lui quelques-uns de ses élèves, et après avoir traversé le lac, il alla avec ses compagnons jusqu'au village de Chava, pour pêcher et trouver un endroit désert pouvant accueillir un ermitage. Là, ils entrèrent dans une auberge où ils rencontrèrent une femme veuve qui, répondant à une remarque de Menrad, lui dit que, s'il s'installait près de ce lieu, elle l'assisterait pour l'amour de Dieu et l'aiderait dans ses vœux autant qu'elle le pourrait. Peu de temps après, poussé par la grâce, Menrad quitta une seconde fois son monastère et ses disciples, et après s'être informé que la veuve de Chama pouvait accomplir ce qu'elle avait promis, il s'enfonça dans la forêt et fixa sa demeure dans un endroit non loin du village. Il n'eut d'abord pour abri que les branches des arbres qu'il avait entrelacées. Mais la sainte veuve de Chama, ne voulant point laisser le serviteur du Christ exposé aux intempéries, lui firent bâtir un petit ermitage où il vécut pendant 7 ans, priant et conversant avec Dieu et les anges. Hélas, l'ermite vivant dans ces montagnes inaccessibles fut bientôt connu, et des foules innombrables vinrent visiter le solitaire et lui offrir des présents qu'il distribuait aux pauvres. Le désert de Menrad était devenu un nouveau lieu de pèlerinage. Nous sommes probablement en 863. Une curieuse histoire arriva alors dans l'ermitage de Menrad. Un soir, deux jeunes hommes, Pierre et Richard, demandèrent à Saint Menrad l'hospitalité. Menrad les logea et les nourrit. Le lendemain matin, Menrad célébra la messe et, ayant miraculeusement été informé de la volonté des deux hommes qui étaient venus pour l'assassiner, pensant trouver beaucoup d'argent, Menrad leur dit « Mes frères, écoutez mes dernières volontés. Quand vous m'aurez mis à mort, vous prendrez tout ce que vous voudrez. Mais auparavant, je vous demande une grâce. Lorsque mon corps sera tombé sous vos coups, placez ces deux cierges qui sont là, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et puis fuyez au plus vite, de peur d'être découvert par les nombreux pèlerins qui viennent me visiter et qui vous feraient expier votre crime. » Se sachant découvert, les assassins ne renoncèrent cependant pas à leur infâme projet et exécutèrent leur mauvais dessein. Au moment où Menrad rendit le dernier soupir, un parfum doux et suave s'échappa de son corps et remplit toute la cellule. C'était le 21 janvier 861 ou 863. Leur forfait achevé, les deux brigands firent ce que Menrad leur avait indiqué et prirent la fuite. Mais bientôt, un charpentier, qui se rendait au monastère, soupçonna ces hommes qui s'enfuyaient de quelque vol ou de quelque crime. Il courut jusqu'à l'ermitage et trouva le saint baigné dans son sang. Le charpentier répandit immédiatement la nouvelle du crime et se mit lui-même à la poursuite des fuyards. Arrivé à Zurich, il vit des corbeaux qui voltaient autour d'une maison et qui frappaient les vitres à coups de bec pour qu'on leur ouvrît. Le charpentier reconnut les criminels qui étaient cachés là. Il les dénonça à la justice, qui les saisit aussitôt. Ils furent condamnés à être roués de coups et brûlés vifs pour expier à la fois leurs crimes et leurs sacrilèges. Entre-temps, l'abbé de Reichenau avait envoyé deux religieux pour ramener le corps du Saint-Martyr au monastère. Mais après avoir récupéré le corps de Menrad, ils arrivèrent devant l'ermitage où Menrad avait vécu pendant 7 ans. Et ils ne purent plus aller plus loin. Personne ne pouvait plus porter le saint fardeau. Le ciel leur suggéra un moyen pour les tirer d'embarras. Ils déposèrent le cœur du saint dans la petite chapelle et ils purent ensuite transporter le corps sacré à Reichenau. Notons pour information que depuis plus de 10 siècles, l'on vénère à Einsiedeln en Suisse une statue de la Vierge Marie, Notre-Dame des Ermites, un don fait par la petite fille de Charlemagne à son cousin ermite Saint Menrad, qui vivait là depuis de longues années et dont la renommée de ses vertus s'étendait au loin. Hildegarde, fille de Louis le Germanique, en fut tellement touchée qu'elle fit bâtir pour Menrad une petite chapelle consacrée à la Mère de Dieu. Telle fut l'origine de Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln.